Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de cette semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Baldoini et Pierre Forest. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du rugby avec la fin de la saison régulière du Top 14 et du tennis avec la fin de l'édition 2025 de Roland-Garros. Après une page de pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Sébastien Baldoini, on va commencer avec vous, avec le tennis. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les dames et une finale idéale, puisque c'était la numéro 1 contre la numéro 2 mondiale. Et c'est la numéro 2 qui l'a emportée, Coco Gauff, l'américaine, contre Sabalenka en 3-7.
Ouais, un gros, gros match. Comme on dit dans le jargon, elle l'a limé, elle l'a vraiment bien défendu. Elle a bien joué avec le vent, elle a tout bien... Tactiquement, c'était vraiment parfait parce que l'autre joue quand même très bien. Elle gagne le premier 7-6 parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est menée 5-1. Elle mène 5-1 au premier, donc on pense que la finale va être pliée vite fait. Mais l'autre s'accroche, et puis elle arrive à, comme ils disent, à la faire fissurer. Et c'est terminé. Elle a plus trop de lucidité et elle perd. C'est bien dommage, mais souvent, Sabalenka fait ce genre de choses et elle sort de son match, quoi.
Alors en tout cas, Coco Gauff a gagné son deuxième titre du Grand Chelem. Elle avait fait finale à Roland en 2022, donc ça reste ouais. Finalement une joueuse américaine qui finalement s'adapte plutôt bien à la terre battue.
Elle le dit elle-même, elle dit que c'est sa meilleure surface et que depuis qu'elle est petite, elle veut gagner Roland-Garros. Elle s'était même écrit sur un papier et elle est allée au bout de ses rêves, c'est bien. Et je pense qu'à son âge, elle peut en gagner encore quelques-uns. On peut revenir aussi un petit peu sur la française.
Louise Boisson, absolument.
Parce que là, c'est quand même quelque chose. Elle a une wild card. Elle est 340e.
361e avant le tournoi, effectivement.
Ouais. Elle prend une wild card et derrière, elle fait un tournoi parfait. Elle monte en puissance. Elle sort quand même la tête de série numéro 3 et 9.
3 et 6, oui. 3 absolument.
Et 6, oui.
Pegula et Andreeva.
Voilà, et c'est vraiment un beau parcours. On a vu que c'était une fille qui avait un gros mental, un gros physique, parce qu'elle a quand même pas de revers. Et arriver en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem sans revers, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que les jambes, elles bougent bien. Et maintenant, comme on dit, le plus dur, c'est de rester. Il va falloir voir maintenant comment elle va faire. Là, elle doit être 65e mondiale.
65e mondiale et première joueuse française. Donc elle va se retrouver avec quelque chose qu'elle va découvrir, la pression et l'attente du résultat.
Et c'est jamais facile. C'est là où on va voir vraiment si elle a sa place ou pas sur les prochains tournois, puisque même dans tous les tournois, elle va rentrer. Elle sera pas tête de série, mais elle sera tableau. Donc il va falloir...
Sauf peut-être à Wimbledon, où elle a demandé une wildcard, oui. Du coup, puisque le cut et le classement étaient faits avant Roland-Garros pour Wimbledon.
Mais je pense que, bon, il devrait lui donner, mais...
Toute logique.
Mais là, elle va être... Maintenant, elle est attendue. Et c'est là où on sait que dans le sport, c'est le plus dur, c'est de confirmer.
Bon, eh ben on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Un petit mot sur Iga Świątek, l'ex numéro 1 mondial qui a beaucoup plus de mal en cette année 2025.
Elle fait quand même demi. Bon, après.
Elle a gagné 4 fois Roland déjà. Ouais. Donc voilà, on s'était dit que peut-être elle allait boucler la boucle et faire le back-to-back. Mais...
J'y ai cru, parce que contre Sabalenka, j'y ai cru un petit peu au début. Puis après, j'ai vu qu'elle ne tenait pas. Alors, je ne sais pas si c'est mentalement ou physiquement, mais au bout d'un moment, on voit qu'elle a une grosse absence. Et à ce niveau-là, ça...
Elle prend 6-0 au troisième set sur Sabalenka.
Ouais. Elle a pas de constance qu'elle avait avant. Avant, c'était un métronome. Puis là, maintenant, elle sort vite du match. Elle ne rentre pas. Donc, puis à ce niveau-là,
ça pardonne pas.
Ça pardonne pas, oui.
Bon, voilà pour le tennis féminin. On va pouvoir passer à ce morceau d'anthologie qu'on a vécu cette nuit. Alors, si vous vouliez vous coucher relativement tôt, c'est raté. Il fallait veiller la nuit entière pour ce match qui a commencé à minuit, heure de Nouméa, et qui s'est terminé aux alentours de 6h moins le quart ce matin.
5h30 de match, c'est énorme.
5h30 de match, 5h29 exactement, pour ce que beaucoup décrivent comme la plus belle finale de Roland-Garros de l'histoire. 5h29 où Alcaraz était mené 2-7-0 et finalement il s'impose en 5-7 au super tie-break du cinquième set.
C'est le match, on va dire, parfait, puisque les deux premiers sets sont pour Sinner et les deux derrière sont pour Alcaraz dans le même score.
6-4-7-6.
Et même au tie-break, c'est 7-3 et 7-4, je crois. Donc c'était vraiment, ils se tenaient dans un... il fallait rien pour que ça bascule. Et le rien est arrivé à 5-3-0-40, puisque Sinner a 3 balles de match.
Au troisième set.
Au quatrième. Il a 3 balles de match. Et là, l'autre, eh bien, on sait très bien que dans les balles de match, c'est le plus dur, c'est de finir un match. Mais l'autre a super bien joué. Alcaraz a pris le jeu à son compte. Et on l'a vu parce qu'à 5-4 derrière, quand il sert, il a quand même encore une chance de plier le match. Et quand il sert, il prend 15-40, je crois. Et derrière, bah, le moral l'en prend un coup. Il arrive quand même au tie-break. Là, au tie-break, Alcaraz sort des points de folie. Et puis après, au cinquième, bah, ça se joue. Alcaraz break d'entrée. Il redébreak, donc on se dit, ça y est, ça va arriver. Et au super tie-break, ben, c'est un peu comme au football, hein, c'est les pénaltys.
Alors, ce super tie-break, il l'a hyper mal démarré. Sinon, il se retrouve à 5-0 très, très vite.
À ce niveau-là...
Quand on sait qu'il faut marquer 10 points, ouais. C'est compliqué.
Ben, surtout contre un Alcaraz qui ne loupait rien. Même... Ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est l'intensité qu'il y a eu tout le match pendant 5h30. C'est des grands athlètes, c'est un... Et puis, comme ils le disent, ils ont vraiment aimé cette finale, que ce soit le vainqueur ou celui qui a perdu. Ils ont, comme on dit, comme les jeunes disent, ils ont kiffé cette finale parce que ça a été au niveau sportif. On s'entraîne que pour vivre ce moment-là. Il y avait zéro déchet. Généralement, Alcaraz a un petit peu de... Il n'est pas constant dans son match. Alors que Sinner, depuis le début du tournoi, il ne perd pas un set et il est vraiment... Il n'a pas un temps où il perd de jeu.
Très constant.
Il est très constant. Et Alcaraz était un peu moins constant en début de match. Mais là, c'était impressionnant des deux côtés. Évidemment, après, au bout de 4 heures, je crois que Sinner, il a toujours eu du mal en 5-7. Et là, à cette vitesse-là, c'est vrai que ils vont bien dormir ce soir.
Alors, je ne suis pas sûr que Sinner va beaucoup dormir, pour le coup. On y reviendra
J'espère
après.
J'espère qu'il ne va pas faire comme Sabalenka, à finir la tequila et aux oursons. Mais
En tout cas, il y a une stat qui est assez dingue. 193 points pour Sinner, 192 points pour Alcaraz.
Comme quoi.
Presque 400 points joués. Et c'est Sinner qui a un point de plus que Alcaraz sur l'ensemble du match.
Comme quoi, quand on parle de points importants de money time, comme on dit dans le jargon quand on joue au tennis, c'est vrai qu'il y a des points qui sont plus importants que d'autres. Et là, on l'a vu, c'est qu'il a marqué plus de points, mais moins de points importants que Alcaraz. Alcaraz était plus là dans les points importants et il fait la différence.
Bon, quel impact elle peut avoir cette défaite sur Sinner, parce qu'on l'a senti très touché au moment de la remise des prix.
Surtout que c'est la cinquième fois qu'il perd contre Alcaraz.
C'est à chaud, voilà, c'est la cinquième défaite consécutive depuis 2024.
Donc, et celle-là, elle fait mal quand vous avez 3 balles de match pour un tournoi du Grand Chelem, ça doit faire mal quand même à la tête.
C'était l'occasion de revenir à 4 partout avec Alcaraz sur le nombre de Grand Chelem, effectivement. Donc là, Alcaraz bascule à 5-3.
Un truc qu'il faut dire aussi, c'est que ces joueurs-là n'ont jamais perdu une finale de Grand Chelem.
Voilà, avant cette finale, aucun des deux n'avait perdu effectivement de
Chaque fois qu'ils en avaient joué une, ils en avaient gagné une. Bon là.
Ils étaient à 100% tous les deux. C'est une stat qui, bien évidemment, ne pouvait pas durer.
Voilà. Là, on va le voir. Wimbledon, ça peut être aussi leur tournoi. Hein, maintenant que tout est. Les balles, c'est plus la même chose. C'est plus le Wimbledon du service volé ou du retour de volé d'avant. Donc, j'espère qu'il y aura un esprit de revanche. Et je pense que Sinner est plus dans ce côté-là.
Alcaraz tenant du titre de Wimbledon, on le rappelle.
Oui, donc il va peut-être essayer d'aller jouer les troubles faits. Bon, après, il y aura d'autres, évidemment. Après, on sait que le sport, qui aujourd'hui n'est pas celui de demain. Mais je crois qu'on est rentré. On avait un Djokovic, on avait des Nadal Federer, des Djokovic Murray. Je crois que là, on est
parti pour voir quelques fois des Sinner Alcaraz.
Ouais, je pense, ouais. Ça va être des sacrés matchs. En tout cas, à chaque fois qu'ils vont se jouer, ça va être des beaux matchs.
Un petit mot sur Djokovic, justement, dont vous parliez à l'instant, qui fait quand même demi-finaliste encore.
On en parlait la dernière fois, on se disait, le vieux Briscard, il faut s'en méfier, bah, il vient quand même en demi. En demi, Sinner fait un énorme match pour le sortir, parce qu'il sauve des balles de 7 aussi.
Sachant que Djokovic avait sorti Zverev le tour d'avant en quart de finale. Hein, donc,
Djokovic a quand même eu un parcours où il a quand même mis son empreinte. Donc Djokovic, ça montre que c'est quand même encore un grand monsieur. L'année dernière, il gagnait quand même, ou non, l'année d'avant, il gagnait quand même la médaille d'or à Roland-Garros, donc en battant Alcaraz.
L'année dernière, exactement.
Il avait encore les jambes. Là, on voit qu'il a moins. Et il disait que c'était peut-être son dernier Roland parce que peut-être qu'il sent que les années commencent à...
Ça commence à devenir compliqué.
Et puis, je pense qu'à son niveau, on ne veut même pas trop perdre aussi tout le temps, quoi. C'est...
Oui, oui, mais c'est le genre de joueurs qui ne resteront de toute façon pas pour être 20e mondial. Donc,
oui, non, ils vont pas faire que, des exhibitions. Quoi.
S'ils voient que ça décline trop, ils arrêteront. On a parlé de Loïs Boisson tout à l'heure sur le tennis féminin. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, malheureusement, sur le tennis féminin.
Non, à part Garcia qui arrête. Voilà. On va dire que c'était le seul truc
dont on avait déjà parlé dans cette émission en tout début de quinzaine.
Ça fait peur. Ça fait peur parce que, et encore, si Buisson ne sort pas de son buisson, j'allais dire, eh ben là, c'est terrible pour le tennis féminin français et masculin, pas mieux.
Alors justement, venons-en au tennis masculin français. On va prendre quelques joueurs dans l'ordre. Alors Gaël Monfils, défaite au deuxième tour contre Draper en 4-7.
Oui, mais il fait le travail, il fait le job parce que c'est quand même Draper est quand même dans les 10 meilleurs mondiaux. Derrière, il a eu un match en 5-7 deux jours avant. Il a 40 ans, on sait que la récupération, c'est pas ça. Il avait des crampes, mais il fait quand même des super matchs et on voit qu'il est encore là.
Il fait le show en tous les cas, il attire le public le public vient aujourd'hui quand même voir Gaël Monfils parce qu'il sait qu'il va se passer quelque chose.
Ouais. Bah, il met tout sur le terrain. Après, bon, on a eu Moutet qui n'a pas eu de chance, il a pris Djokovic au deuxième tour.
Exactement.
Parce que c'était notre seule chance de... Humbert, on en avait parlé, il était blessé, on savait qu'il n'allait pas faire grand-chose.
Voilà, malheureusement, il s'est blessé au deuxième tour contre Fernley. Il a tenté de reprendre, mais son mollet avait malheureusement un peu trop souffert pour pouvoir reprendre et continuer. Donc, il a dû abandonner.
A fait deux bons matchs, mais derrière, il se blesse.
Ouais, il fait forfait au troisième tour alors qu'il devait rencontrer Rublev.
Après, ça aurait été compliqué, je pense, pour lui, surtout avoir fait 5-7 comme il avait fait avant, ça aurait été un petit peu compliqué. Ah, et puis après, on a...
Surtout que Rublev est plutôt en mode rouleau compresseur, donc... Oui. Et éventuellement, il y avait un match sur Sinner derrière.
Oui, de toute façon, c'était pas la bonne partie du tableau, mais c'est toujours mieux de perdre contre le numéro 1 mondial que...
Que sur Fernley, par forfait, comme il l'a fait. Et en dernier, on peut parler de Giovanni Impecci-Pericard.
Ah bah lui, pour moi, c'est vrai que c'est une déception, parce que quand on est dans les 30 meilleurs mondiaux et qu'on est tête de série à Roland, de perdre contre Zumur, qui est venu quand même...
Qui est plutôt en fin de carrière.
Il est venu sur le Challenger de Nouméa. On sait que c'est un vieux briscard et il l'a bien montré parce que il l'a mis dans la chaussette, comme on dit. Mais c'est bien dommage. Je trouve que voilà, ce garçon-là, à son niveau, il aurait pu à un moment reculer et se dire tiens, je vais peut-être arrondir les balles, je vais peut-être un peu essayer de me battre, au lieu de mettre des parpaings
toute la partie,
et puis perdre. Donc on va voir ce qu'il va donner lui à Wimbledon, avant Wimbledon.
Ouais, sur les tournois sur
herbe. Parce que là, on rentre vraiment dans sa partie à lui.
À l'E notamment, au Queens. Donc on va voir effectivement ce que ça donne à Sertogenbosch. Quels sont pour vous, Sébastien Vallovini, les faits marquants de ce tournoi, du coup, pour faire un bilan de ce tournoi? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette édition 2025?
À part Buisson.
Boisson.
Louis
Boisson.
Oui, qui sort du Buisson, pardon. Non, à part elle, et puis évidemment cette finale, il n'y a pas eu... alors je ne sais pas si c'est le fait que maintenant il couvre le central, et que mais il n'y a pas eu trop de surprises. On a plus les bagarreurs d'avant qui arrivent à battre les meilleurs, parce qu'avant la terre était plus lourde, elle était... y a moins de faits, je trouve. Après ça, c'est peut-être mon œil et... qui est peut-être un peu plus vieux que maintenant là, mais c'est vrai que le tennis maintenant c'est plus pareil. On a deux têtes de série qui sont tombées, mais on savait au tout début qu'ils allaient tomber parce qu'ils faisaient pas une bonne pré-saison, mais le reste voilà, pas eu plus de choses à part la plaque des 14
titres de Rafael Nadal.
Je pense que celle-là, quand on doit être sur le central et qu'on joue, elle doit peut-être...
Elle a en tout cas attiré l'œil de beaucoup de joueurs qui sont venus avec leur téléphone la photographier de près à chaque fois qu'ils rentraient sur le central. Donc effectivement, ça va devenir l'attraction de Roland pour les joueurs, parce que pour les spectateurs, ça va être plus compliqué.
Et puis, c'est pas prêt d'être battu.
Ah bah pour gagner 14 titres, oui.
Il va falloir y aller, hein, surtout quand on voit pour gagner un titre ce qu'il faut faire. C'est... Non, mais c'est bien dommage, mais voilà, Roland-Garros, moi, cette année, à part d'habitude, il y a un peu plus de...
De surprises.
Il y a un peu plus de surprises, là, il n'y en a pas eu beaucoup, et c'est bien dommage.
Bon, eh bien, on va attendre maintenant la...
Peut-être parce qu'il n'y a plus de Français aussi.
La saison sur herbe, c'est vrai que le fait qu'il y ait les Français ne soient moins performants, ça nous incite un petit peu moins à suivre. On va basculer sur le rugby avec vous, Pierre Forest. C'était la 26e et dernière journée du Top 14 hier matin. Il y avait du suspense à presque tous les étages. On va décomposer ensemble un peu toutes les parties du classement. Alors, hormis Toulouse, qui était déjà qualifié et assuré de terminer premier, il y avait encore un petit espoir pour Toulon de terminer deuxième. Mais les Toulonnais se sont inclinés.
À Bayonne. À Bayonne, où il est très très difficile de gagner. D'ailleurs, je crois que Bayonne reste une forteresse.
La seule équipe invaincue à domicile
donc,
cette saison.
C'est déjà très bien pour un club qui n'était pas habitué aux phases finales. Et c'est de bon augure pour la prochaine rencontre, parce qu'ils vont recevoir.
On reviendra sur les barrages après. Mais en tout cas, donc, sur cette deuxième place, donc, l'UBB a conforté sa deuxième place en laissant aucune chance au Vannetais. 59-28.
Malgré une très belle résistance du club breton qui a joué le jeu, mais qui était déjà un peu condamné avant le coup d'envoi, puisque ça aurait été un miracle. Hein.
Oui.
Vous avez parlé de miracle au tennis, là, avec le tennis la française.
Boisson.
Là, c'était un miracle, mais bon, ils ont joué le jeu.
Toute la saison, hein, les Vannetais ont été remarquables toute la saison.
Toute la saison, et je crois que ce qu'il faut retenir de ce passage de Vannes à ce niveau-là, en top 14, c'est le public, où c'est le seul endroit, c'est le seul terrain du top 14 où le buteur adverse est respecté, il y a un grand silence.
Au moment où il va botter.
Au moment où il va botter, alors que partout ailleurs, il se fait siffler, insulter de tous les noms, mais voilà. Mais c'est une valeureuse équipe qui a joué le jeu, et ça aurait été un miracle d'aller gagner à Bordeaux chez le champion d'Europe.
Bon, on peut le dire, on a hâte de revoir Vannes et le stade de la Rabine en top 14. On espère que ça sera...
On va en parler tout à l'heure, parce qu'avec le pro des deux, Montauban qui monte, ils vont faire l'aller-retour. Pareil. Hein. Le niveau, il est quand même il est conséquent, il est réel entre la pro D2 et le top 14. Quoi.
On va continuer à égrener donc en descendant place par place. Donc on a parlé des trois premières places, donc Toulouse termine premier, l'UBB deuxième et Toulon troisième. Il restait trois places à prendre derrière en 4-5-6 pour les phases qualificatives pour les playoffs. Et le grand perdant, il y avait quatre équipes, grosso modo, pour ces trois places. C'est La Rochelle qui est le grand perdant.
Bayonne était assuré. Voilà, mais il restait deux places pour faire les six, là. Ça se jouait à quatre. Donc, il y a évidemment La Rochelle,
hein, Clermont.
Double champion d'Europe. Il y avait Castres. Hein,
Castres, par Clermont.
De la dernière journée.
C'est ça.
Et ensuite, Clermont. Clairement, qui n'était pas dans les six, et Pau également, qui n'était pas également, qui était huitième. Donc, malheureusement, pour La Rochelle, c'était un déplacement à Pau, où là, ils ont sombré à Pau, sur une erreur manifeste à la fin, avec
32-18, voilà.
Transmission de trois quarts en plus, Astoy, qui est originaire de Pau maintenant, qui est international, qui joue à La Rochelle, qui a merdé, comme on dit. Hein. Donc, ça leur a coûté cet essai. Donc, La Rochelle, qui est quand même allé gagner à Montpellier, qui n'avait plus rien à perdre, ni à gagner, ni à perdre. Donc, c'était peut-être plus facile pour La Rochelle. Pour
Clermont.
Clermont.
23-10 à Montpellier.
Voilà. Et donc, sans qualifier Clermont, 5e et 6e, du coup, Castres.
Exactement.
Qui était déjà 5e et qui a régressé, parce que Castres a donc perdu... À Paris, contre
le Stade français, voilà. Exactement, qui du coup, on va y arriver un petit peu après, mais s'en sort. Donc, si on regarde donc, les qualifiés pour les play-offs, on a Bayonne qui affrontera Clermont samedi prochain.
À Bayonne.
Et le vainqueur de ce match affrontera Toulouse, en demi-finale. Et,
on a Castres-Toulon, Toulon-Castres plutôt. Mm.
Exactement, Toulon-Castres dimanche matin, je suis en train de m'en mêler, et le vainqueur affrontera l'UBB.
L'UBB.
Donc voilà, le tableau de ces playoffs est désormais connu. Et maintenant, on peut passer au bas de classement. Là aussi, il y avait un petit peu moins de suspense. Donc Vannes, on l'a dit, était quasiment condamné. Il aurait fallu un miracle qui n'a pas eu lieu. Donc Vannes évoluera en Pro D2 la saison prochaine. Perpignan y a cru un moment.
Perpignan y a cru, il fallait qu'il gagne Toulouse à domicile déjà. Et qu'il batte Toulouse. Ils l'ont fait.
De belles manières d'ailleurs.
De très belles manières. Et malheureusement.
42-35.
Malheureusement pour eux, ils comptaient sur
un faux pas du Stade français à Paris
contre Cast. Et malheureusement, le Stade français aussi a gagné. Donc rien n'a évolué. Donc le Stade français sauve sa place en top 14. 12e. Et Perpignan devra passer par les barrages pour se maintenir ou descendre pour des deux.
Alors justement, ce barrage, on peut en parler contre Motoba.
Non, Montauban, direct.
Grenoble. Contre Grenoble, exactement.
Grenoble, je crois qu'ils ont avec eux un truc qu'on appelle au féminin la grosse poisse, quoi. Hein, parce que ça fait 3 saisons. C'est un être qui joue la montée. Et se plante. Les 2/3 de la saison, ils étaient en tête. Ils ont dominé cette pour des deux et on ne sait pas pour quelle raison. Ben, ils sont tombés contre une équipe qui a joué son rugby et qui a joué aucun nom connu dans cette équipe-là. Le seul nom connu, c'était celui de l'entraîneur, Tillus Bord. Tillus Bord qui a été international une vingtaine de fois à peu près en équipe de France, qui a fait les beaux jours de Biarritz olympique et surtout de Toulon. Il a été 3 fois champion d'Europe avec Toulon et 1 fois champion de France. Il a même été dans l'encadrement quand il a arrêté de Toulon avec celui qui entraîne maintenant Montpellier, je crois, Colazo. Donc c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui sait de quoi il parle, et demi-mêlé, hein. Il sait de quoi il parle, et on l'a vu sur le bord du terrain, où il était vraiment très à l'aise pendant tout le terrain, pas d'affolement, etc. Donc il a donné un petit peu ce qu'il a à ces joueurs-là qui ont joué leur rugby. Vous parliez tout à l'heure de Boisson en tennis féminin qui est sorti de nulle part. Et là, Montauban, qui était qualifié, 6e et dernier qualifié, joue le truc contre Colomiers. À Colomiers, ils battent Colomiers. Ensuite, ils vont à Brive le week-end dernier. Brive, qui est quand même l'un des favoris. Et ils vont battre Brive chez eux. Et puis là, contre toute attente, ils tapent Grenoble à Toulouse, quoi. C'est pour la finale. C'est incroyable. Bon. C'est des belles histoires comme ça, je crois.
Voilà.
De temps en temps, on est bien.
C'est le week-end prochain, me semble-t-il, le match aller de ces barrages.
C'est le week-end prochain, le match aller des barrages entre Grenoble et évidemment Perpignan.
Perpignan, match retour à Perpignan la semaine suivante.
Mais comme je disais tout à l'heure, la différence maintenant. Il ne faudrait pas s'attendre à un exploit, puisque déjà Perpignan est sur la bonne rampe, là, puisqu'ils viennent de gagner
en battant Toulouse.
Ça donne quand même un peu de confiance, alors que Grenoble, en 5 jours, c'est vendredi soir, je crois, le match, en 5 jours, il va falloir qu'ils retrouvent un peu tous les moyens, les esprits, pour essayer de faire une bonne figure.
Mais mentalement, ouais, ça peut être top.
Un petit mot sur une individualité de cette saison, Louis Biel-Béarré, meilleur marqueur d'essai, 13 essais, ça paraît pas forcément si impressionnant que ça en 26 journées, sauf qu'il n'a joué que 15 matchs. Donc c'est presque un essai par match.
C'est maintenant quelqu'un qui est un peu dans tous les radars, non seulement au niveau championnat de France, mais au niveau international. Hein. Il a démontré en équipe de France également qu'il est maintenant installé à cette... À ce fameux aile gauche là, donc c'est le plus rapide, c'est le très très rapide, et je crois que le jeu préconisé à Bordeaux dans son club fait valoir que autant de ballons sur 5 ballons il marque 2 essais, hein, pour lui c'est une moyenne comme ça, donc c'est il est réunionnais et c'est bien pour le rugby ultramarin. Et puis, il a signé, sauf grosse blessure, il a signé un long bail, je pense, en équipe de France. On le verra très bientôt. Et c'est une très bonne augure pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde.
Alors, oui, Sébastien Malouini.
Il a déjà fait une belle Coupe du Monde.
Mais
c'est là où il avait été révélé un petit peu.
Voilà.
Vos favoris pour le titre, Pierre ? Avec les play-offs qu'on a présentés tout à l'heure.
Alors, mes deux favoris déjà pour la finale, je pense que je ne vais pas inventer quelque chose. Pas être très original, ça va être encore une finale, je pense, Toulouse-UBB. Et ben, sur la finale, l'UBB est très bien, il est bien psychologiquement, ils sont dans la bonne vague avec ce titre de champion d'Europe qui donne quand même pas mal d'assurance à cette équipe-là, qu'on avait constaté qu'il perdait les moyens sur des phases finales, sur des matchs
en jeu. On se souvient de la finale là, du championnat l'année dernière. Hein.
J'ai l'impression que il a gagné en maturité avec des individualités. On parlait de Biel-Biarré, mais ils ont une ligne de trois quarts. Si tant est qu'il y a une faiblesse à trouver dans cette équipe-là, c'est peut-être le paquet d'avant, quand on compare à un autre paquet d'avant comme celui de Toulouse. Mais ils ont une ligne de trois quarts qui est une ligne de trois quarts internationale. Ils sont tous en équipe de France, hein, cette ligne de trois quarts. Donc, Penaud d'un côté, Biel-Biarré de l'autre.
Penaud.
Jalibert,
l'ouverture. Lucu.
Remplaçant de Dupont. Voilà, donc c'est... Non, il y a...
Si la finale est bien celle-ci, la confiance sera quand même du côté de l'UBB, puisqu'ils ont battu Toulouse trois fois cette saison.
Cette année, généralement, on dit que l'équipe française qui gagne le titre de champion d'Europe fait le doublé derrière. Et ça a été valable pour Toulouse. Pas pour La Rochelle, malheureusement, où deux fois ils sont tombés sur les dents contre Toulouse, mais ça peut être l'année de
l'UBB.
De l'UBB en doublant avec un titre de champion de France qui serait vraiment mérité par rapport à la saison qu'ils ont fait et par rapport au travail de Bru, hein, qui est l'entraîneur, le coach, qui est un ancien du Stade Toulousain, donc il connaît exactement comment ça se passe en face. Et donc voilà, si je devais mettre une petite, même si je suis peut-être plus...
Toulousain de cœur.
Pour Toulouse, mais ça sera pas évident. Surtout que Toulouse, tout au long de la saison, est-ce que c'est un bien ou pas? Apparemment, ça ne les dessert pas de savoir qu'ils sont qualifiés depuis longtemps, puisqu'ils font tourner l'équipe, ils font tourner. Et on a vu sur le match contre Perpignan, ils ont encore fait tourner. Ils ont beaucoup de blessés maintenant. Les titulaires, non blessés, ils les mettent un petit peu au chaud. Donc il y a un manque de rythme, évident, parce que là, il y a le week-end prochain, ils ne jouent pas. Hein. Donc il va falloir qu'ils trouvent quelque chose. Il y a encore 15 jours avant les demi. Donc ça les dessert plus qu'autre chose. Et voilà, donc en plus...
Ils ont perdu Dupont, en plus.
Voilà, ils n'ont pas Dupont jusqu'à la fin de saison.
C'est quand même un plus.
Pas Movaca non plus, non plus. Et donc... ça pourrait les desservir, voilà, on va dire ça comme ça. Mais Toulouse, on sait, reste Toulouse, ils sont toujours présents au rendez-vous, les phases finales, ils aiment ça. Ils ont déjà loupé le titre de champion d'Europe et ils ne voudraient pas non plus louper le titre.
Ils vont être animés par un quand même esprit de revanche face à l'UBB, puisqu'ils ont quand même perdu trois fois cette année, donc je pense qu'ils n'ont pas envie qu'il y en ait une quatrième.
Exactement.
On va attaquer les brefs de cette semaine et on va commencer par du football. Il y avait la Ligue des Nations en milieu de semaine dernière et donc ce week-end. Et c'est le Portugal qui s'est imposé ce matin dans la Ligue des Nations. Les Portugais sont imposés face aux Espagnols 2-5, 5 tirs au but à 3. Sébastien Baldovini, belle semaine pour les quatre Portugais du PSG, hein, Gonçalo Ramos, Vitinha, João Neves et Nuno Mendes, qui a été élu homme du match.
Ah ben, Nuno Mendes a fait un sacré match, il était partout.
Buteur aussi buteur, sur ce match.
Au pénalty, il
n'a pas tremblé.
Pas tremblé. Pour un latéral, c'est quand même quelque chose. Et non, rien à dire sur l'équipe du Portugal qui, pour ma part, en voulait beaucoup plus que l'Espagne, surtout
dans la prolongation.
Dans la prolongation, il en voulait vraiment plus. Alors, est-ce qu'ils étaient fatigués, les Espagnols? Je ne sais pas. Bon, à leur niveau, je ne sais pas trop. On va dire quand même qu'ils ont eu de la chance, parce qu'en demi-finale contre la France, c'était presque un score de tennis. Donc à 5-4, on peut se dire que les Français ont...
On va y revenir juste après, effectivement.
Ils auraient pu revenir, mais bon voilà. Après, pour moi, les Espagnols m'ont pas beaucoup impressionné.
À part un certain Lamine Yamal, qui est toujours étincelant.
Oui. Mais bon, à 1, on ne fait pas tout dans une équipe. Et on a vu que, par contre, les Portugais, même avec un Cristiano Ronaldo qui a 40 ans, eh ben, ils arrivent, ils sortent maintenant. Je trouve que cette équipe est bien compacte et bien au milieu et très bien.
Ben c'est parfait, vous avez fait ma transition. Parce que mon point d'après, c'était effectivement le fameux CR7, toujours aussi performant, 40 ans, buteur en demi-finale, buteur en finale. Hein, il est toujours là. Il porte cette équipe aussi. C'est incroyable, ouais. Pierre.
Extraordinaire. À 40 ans.
C'est un exemple là, pour la jeunesse. Ouais. Hein, parce que...
bon, il a quand même eu un championnat en Arabie Saoudite là, qui n'est pas très. C'est pas le championnat européen, mais je veux dire.
À 40 mais il met 35 buts quand même.
Ouais, je veux dire.
Il faut jouer les 90
minutes. Peut-être que le niveau physique n'est pas le même que celui qui se joue en Europe.
En termes d'intensité, effectivement.
Championnat. Mais non, c'est à souligner.
C'est un gros respect.
Juste par rapport aux jeunes, Lamine Yamal, je trouve qu'il a, il aurait fallu un super Lamine Yamal pour avoir, je pense, une équipe d'Espagne qui était beaucoup plus concurrente. Il a bien été pris par le gars du Paris Saint-Germain.
Nuno Mendes ne l'a pas lâché, absolument.
Et d'ailleurs, sur le but, sur un des buts, Nuno Mendes, il lui fait un débordement, là. Mm. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième.
Sur le premier, oui.
Sur le premier, il y a quand même une faute en défense du jeune. Alors, le sortir vite comme ça, tu le perds après sur la séance de tir au but, mais bon, tu ne sais pas au départ s'il y aura un tir au but ou pas, parce que je pense qu'il aurait été mis dans les tirs au but.
Oui, forcément. Voilà.
C'est vrai que Nuno Mendes l'a mis dans sa poche, comme ils disent. Ouais, c'était impressionnant parce que, et ça toujours, dans tous les matchs qu'il fait, on le voit.
C'est un match.
Et là, on l'a moins vu, à part, bon, de temps en temps, mais des fois, il est obligé de revenir défendre et c'est...
Il a montré ses lacunes en défense, là, quand même.
Ça montre bien le niveau des Portugais, le niveau du PSG.
En revanche, on l'a bien vu jeudi matin contre l'équipe de France.
Oui, enfin, avec la défense de l'équipe de France, c'était pas trop dur non plus, parce que j'ai l'impression de voir une défense de minime, mais dès qu'il passait les 25 mètres, il y avait but.
Alors, le score, effectivement, reflète pas forcément la physionomie du match, 5-4 pour les Espagnols, mais il y avait 5-1 à la 65e minute, grosso modo, jusqu'à l'entrée de Ryan Cherki, qui a fait vraiment changé... ce qu'on appelle un game changer, il a vraiment changé la physionomie du match, il met un but, il fait presque deux passes décisives.
Et puis le but qu'il met, il n'est pas...
Voilà, première sélection.
Ouais.
C'était un peu presque la seule bonne nouvelle de cette rencontre, Ryan Cherki.
Tout à fait, si on se souvient bien, la première rentrée de Zinedine Zidane en équipe de France, c'était pareil.
À Bordeaux contre la République tchèque.
Donc je lui souhaite
la même carrière
que Zinedine, et surtout pour nous encore un meilleur joueur.
Bon, en tout cas, effectivement, la défense de l'équipe de France, pour en dire deux mots, elle était aux abonnés absents sur ce match.
Pas soir, complètement. Ouais. Ah oui, là ils étaient, mais heureusement qu'à un moment il fait les changements et que les Hernandez rentrent et que ça remet mais sur l'aile droite, on voit que Koundé il nous a manqué parce que là c'était...
C'est ça, Pierre Kaloulou a vraiment beaucoup beaucoup souffert.
Oui, puis en plus il avait Lamine Yamal...
C'est sur l'autre aile, c'était sur l'autre aile Lamine Yamal, parfois ils ont permuté, effectivement.
Ils ont permuté, chaque fois il passait crème, mais c'est vrai que c'était...
On a vu l'Anglais très 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 en souffrance dans l'axe central avec Konaté.
Il a été très moyen, je trouve.
Ah mais il a été en retard surtout. Et puis c'est vrai qu'on a toujours été habitué à une équipe de France d'avoir une défense très solide, charnière. Et là, c'était bon.
On sait que l'Anglais n'est de toute façon pas le premier choix puisqu'on n'a pas Upamecano blessé, on n'a pas William Saliba blessé, donc on sait que c'est pas non plus le premier choix de Didier Deschamps.
Non, mais ça montre
que c'est pas forcément rassurant en termes de banc.
À un an
de la Coupe du Monde.
Ouais, là, il va falloir travailler sur la... Parce qu'on sait très bien qu'en Coupe du Monde, on peut attraper des cartons ou des choses comme ça, et de voir rentrer sur des gros matchs... Là, ils n'avaient pas du tout le niveau. Là, c'est la charnière, elle n'était pas...
Ce match a effectivement mis en exergue qu'il y avait du travail en défense.
Ouais, parce qu'en plus, ils ont l'Espagne, avec le milieu qu'ils ont, ils ont quand même...
Ah oui, ils ont cadenassé le match.
Alors, même si on avait 4 super attaquants, c'était compliqué. Hein. Heureusement qu'à un moment, il a changé parce que je pense que le score aurait été beaucoup plus...
Ça aurait pu être beaucoup plus sévère, absolument. Ouais. Un petit mot sur Kylian Mbappé qui a mis son 50e but avec l'équipe de France ce matin, donc en match de classement, parce que la France a terminé 3e de cette Ligue des Nations en battant l'Allemagne 2-0.
Ça faisait un an qu'il n'avait pas mis un but dans le match.
Dans le jeu.
Dans le jeu, oui.
Dans le jeu. Il a marqué en demi-finale lui aussi sur penalty contre les Espagnols, mais il n'avait pas mis de but dans le jeu depuis presque un an, effectivement. Mmh. 50 buts en 90 sélections à 26 ans.
Ça reste un bon buteur, soulier d'or là, du championnat espagnol.
Oui, on l'a vu.
Soulier
d'or européen, absolument.
Même si le Real de Madrid n'a pas été jusqu'au bout, mais il a quand même...
Le truc, c'est qu'on lui en demande peut-être toujours plus, mais en début de saison, on disait qu'il allait faire une saison moyenne avec le Real. Il devient le meilleur buteur, il efface un peu Vinicius, il efface un peu tout le monde.
Ah, puis il porte le Real surtout, parce que
voilà, donc,
si Mbappé n'est pas aussi performant, le Real est beaucoup moins bien aussi en championnat. Hein.
Donc
pense que voilà, c'est un sacré joueur. Maintenant, évidemment, tout le monde veut l'affronter. Tous les arrières, tous les milieux veulent essayer de le stopper. Donc, ouais.
Par contre, la déception de ce truc, c'est quand même l'Allemagne, hein, parce que c'était à domicile. On n'a pas vu l'équipe d'Allemagne qu'on avait un peu peur d'affronter.
On a une équipe d'Allemagne dans laquelle Nagelsmann cherche encore la solution. On l'a vu hein, ce matin. Alors, les Allemands ont dominé la première période. Hein. C'était presque miraculeux de revenir à 1-0 à la mi-temps pour l'équipe de France, parce que toutes les occasions et l'ensemble de la mi-temps a vraiment été allemande. Il manquait plus qu'à concrétiser les occasions. Mais effectivement, ils ont plus... En ce moment, les attaquants qu'ils avaient, Müller par exemple, Klose à une autre époque, voilà, Foulcourt a été quand même.
Ménigué et tout.
Si on remonte plus loin, effectivement.
Mais c'est, par contre, si on avait eu la défense qui a joué contre l'Espagne, je pense que l'Allemagne aurait pu marquer, oui. Parce qu'ils se sont bien rattrapés, je trouve.
Oui, effectivement. Alors déjà, Maignan a aussi, lui, fait un meilleur match, puisqu'il a été un peu stigmatisé. Il est quand même passé au travers aussi contre l'Espagne. Mais effectivement, la défense centrale s'est beaucoup mieux comportée que sur le match de l'Espagne. On va très, très vite passer à la MotoGP, messieurs. Une nouvelle victoire de Marc Marquez devant son frère Alex. J'ai presque envie de dire encore, comme d'habitude. Ouais. Ça commence à devenir un peu le refrain de cette saison en MotoGP. La petite surprise, c'est, qui ne devrait pas en être une, c'est que Pecco Bagnaia est troisième, enfin.
Il
a quand même un début de saison très compliqué. Pour nous Français, la déception, puisque Zarco et Quartararo ont chuté tous les deux. Donc voilà, sur les trois pilotes qui ont chuté, les deux sont Français.
Ouais, et Quartararo n'avait pas fait la pole, alors que d'habitude
il avait enchaîné les trois dernières poles, effectivement.
Là, il était pas. Voilà. Après, c'est un circuit un peu spécial.
C'est ça, c'était le Grand Prix d'Aragon, on n'a pas dit. Et donc au championnat du monde, Marc Marquez a repris un petit peu d'avance sur son frère, 32 points d'avance, 233 points pour Marc Marquez, 201 pour son frère Alex, et Pecco Bagnaia est troisième, mais déjà à presque 100 points, à 93 points de Marc Marquez. Donc les deux frères Marquez ont fait le trou en tête du championnat.
Ben oui, parce que maintenant, comme il y a deux courses, il y a la longue et il y a la courte.
Il y a la sprint race du samedi, effectivement.
Et Marc Marquez la gagne à chaque fois.
Exactement.
Avec son frère derrière, donc ils enquillent les points.
On prend les mêmes et on recommence.
Ouais. Et c'est... il n'y aura pas trop de... Sur ce championnat, je crois qu'il ne va pas y avoir, à part pour les deux Marquez, qui va gagner, voilà. mais sinon, il n'y aura pas trop de surprises.
Il faut juste mettre une pièce sur le bon Marquez.
Oui. Après, je pense qu'il y en a un qui l'a fait, on l'a dit la dernière fois, c'est Zarco, lui... Il a rempli son année, il a gagné son Grand Prix. Mais c'est vrai que Quartararo, je pensais qu'il allait monter aussi plus en puissance. Et puis là, plus rien, la moto répond moins bien. Puis il tombe, ça fait deux fois qu'il tombe, donc c'est jamais très bon.
C'est ça. Ça veut dire qu'on pousse la moto à la limite et qu'on prend trop de risques. Messieurs, on a terminé avec le débrief de l'actualité sportive de cette semaine. Je vais vous demander vos coups de cœur. Pierre Forest, on va commencer par vous.
Je vais rester dans le rugby et puis l'exploit de Montauban. Alors un coup de cœur collectif à cette équipe qui est champion de France Pro D2, qui va donc monter en top 14. Et puis dans cette équipe, il y a un Calédonien, Dimitri Vautoua, qui a fait toute la saison, mais qui n'a pas malheureusement joué la finale. J'ai pas vu dans la composition d'équipe et encore moins dans les entrants. Certainement pour qui est blessé, etc. Mais qui a fait les beaux jours de Nevers et qui maintenant a fait les beaux jours de cette équipe de Montauban et qui s'arrête là à la fin de saison, donc il prend sa retraite. Donc un grand coup de chapeau à Calédonien, à Vautoua, famille originaire d'Imbert. Voilà, je crois. Voilà.
Sébastien Maldovini, votre coup de cœur de cette semaine ?
Alors moi, mon coup de cœur, il va aller pour le Tennis Club d'Auteuil et la mairie d'Imbert, qui ont décidé de faire appeler le complexe Philippe Blasco. Alors pour moi, c'est évidemment particulier, puisque c'est un peu un grand frère, et je trouve que c'est super cette initiative-là. Il le méritait amplement, et voilà, je trouve que c'est très bien.
Bon,
et c'était mon gros coup de cœur.
Surtout
à Richard Pugibé qui a fait beaucoup avec son comité pour que la mairie accepte ce nom.
Voilà, et pour compléter cette information, pour ceux qui souhaitent, l'inauguration du complexe Philippe Blasco aura lieu samedi matin.
Samedi matin.
À Auteuil, voilà. Vous pouvez venir nombreux pour rendre un dernier hommage à Philippe.
Alias Canard.
Voilà. Messieurs, cette émission est terminée. Merci de m'avoir accompagné ce soir.